apprends comme si tu devais vivre toujours. C'est le mantra et l'objectif de ce podcast. À la découverte de profils inspirants au travers d'entretiens décomplexés. Mon ambition est de créer pour vous et pour moi l'opportunité d'apprendre et de comprendre. Et pourquoi pas de vous donner l'envie d'entreprendre. La curiosité et l'ouverture d'esprit sont les maîtres mots. Mon nom est Pierre Barraud et c'est un plaisir que de faire ce chemin avec vous. Ce podcast est sponsorisé par l'ISC Paris, École de commerce et de management. Il est réalisé avec les moyens techniques du studio de podcast du campus Orléans de l'ISC, dont je suis le directeur général. Avec son slogan Be Our Change, l'ISC invite tous ses étudiants à devenir le changement qu'ils veulent voir dans le monde. Une pédagogie d'apprentissage par l'expérience, un modèle unique et original. L'ISC Paris, membre de la Conférence des Grandes Écoles, propose des programmes Bachelor, programmes Master Grande École, Master of Science, MBA, DBA et toute une offre d'Executive Education. Ces deux campus, parisiens et orléanais, sont résolument tournés vers l'international, avec plus de 150 universités partenaires à l'étranger. L'ISC Paris peut également se prévaloir des plus grandes accréditations internationales, mais aussi d'un réseau de plus de 19 000 diplômés présents dans plus de 80 pays. Si comme moi, vous êtes persuadé que tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais, l'ISC Paris vous donnera l'opportunité de devenir celui que vous êtes. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de La Colle. Cette semaine, on va parler obsolescence programmée, entrepreneuriat, éco-responsable. On va évoquer aussi le crowdfunding. Avec comme invité, je savonne, mais c'est pas grave, avec comme invité aujourd'hui, Karen. Salut Karen.
Bonjour.
Alors Karen, on se connaît depuis longtemps. Mais en fait, on s'est perdu de vue pendant un petit moment. Il se trouve qu'on a été étudiants dans la même école. Et puis, voilà, on a eu des vies qui ont fait que. Et en fait, pourquoi j'ai voulu qu'on échange là, c'est que t'es aujourd'hui la cofondatrice d'une marque d'électroménager, ce qui est quand même juste incroyable, hein. Enfin, on reviendra dessus, mais c'est quand même juste improbable. Avec donc cette marque, elle s'appelle Keep It, et il y a un slogan. Alors, je sais pas si c'est le slogan officiel, mais en tout cas, je l'ai vu sur une de vos coms, qui est vous allez en profiter longtemps. Voilà. Et avec ça, on a tout dit. Alors Karen, est-ce que tu veux en quelques mots déjà te décrire un petit peu, de nous décrire un peu qui tu es?
Bien sûr. Donc, je m'appelle Karen, j'ai 49 ans, je suis la mère de 3 enfants, je suis une sérielle entrepreneur et je suis donc la cofondatrice et la présidente de Keep It.
Alors, on va revenir un bon moment sur Keep It parce que c'est vraiment le sujet du jour. Donc, sortie d'école de commerce.
Comme toi, la même année.
La même année en plus. Et après, toi, tu vas, par contre, vers la publicité.
Exactement. Donc, sortie d'école, comme beaucoup, je savais pas trop bien quoi faire. J'avais une petite fibre commerciale et donc je me suis trouvée pas mal par hasard et un peu par chance à postuler dans un groupe de presse informatique.
D'accord.
Qui s'appelait IDG Communication.
T'avais une appétence pour la techno ou?
Mais alors, tellement aucune. c'était pas ça du tout, en fait. C'était un contact. Je vais en entretien. Je rencontre quelqu'un pour un poste de chef de pub, donc un poste de commercial. Ouais. Et puis, je rencontre un rédacteur en chef qui me parle et l'entretien se passe super bien. Et puis, il me donne son journal en me disant, si ça vous intéresse, dites-moi. Je prends le journal, je rentre chez moi. Le journal s'appelait Réseau et Télécom. Et très sérieusement, j'arrive chez moi et je comprenais globalement les mots de liaison. Donc, ça parlait, mais ça parlait chinois, c'était hyper drôle. Et je me suis dit, bon, ça, c'est un challenge pour moi, allons-y. Et donc, je me suis trouvée chef de pub pour réseau et télécom, donc à vendre.
Faut oser quand même.
C'était drôle. Mais c'était assez drôle. Enfin, franchement, c'était drôle parce que vraiment, je ne comprenais rien. C'était une autre planète. Et donc, j'ai commencé donc chef de pub pendant un an dans ce groupe-là. Après, bon, je ne devais pas être trop mauvaise et j'ai été débauchée pour partir dans le groupe concurrent.
Ah.
Ça s'appelle le groupe test qui existe plus ou moins encore.
Ouais.
Et donc, je me suis trouvée, bah, alors, de réseau et télécom, je suis passée à décision micro et réseau. Alors, j'avais pris un peu de galon. Alors, je comprenais un petit peu plus le vocabulaire, mais très, très légèrement. Et j'ai, donc, vendu de la pub pendant 5-6 ans, donc passé de chef de pub à directrice adjointe, et puis après à directrice de la pub.
C'est pas des boulots faciles.
Oh, c'était moi, ça m'amusait pas mal. C'était une bonne époque aussi pour l'informatique, faut pas le cacher. Et puis c'était un boulot purement commercial. Donc sortant de l'école, moi je faisais de la vente. Enfin, c'est très très honnêtement, c'était pas désagréable, mais ça allait pas très très loin.
Ouais.
Donc au bout de 8 ans, je pense que j'avais bien fait le tour de l'histoire.
Donc il fallait bouger.
Et là, première chance.
Ouais.
Je pense que voilà, il faut aussi saisir première opportunité, première chance. On me propose de monter un institut de sondage et d'études de marché. Alors, à l'origine, c'était plutôt monter une société autour d'un produit très spécifique.
Mmh.
C'était un tracker de consommation. Donc, on était bien avant le big data. C'était de suivre la consommation de Français, toute la consommation, donc des jours, 24 heures de consommation, avec un objectif. Déceler le moment, l'impact d'une crise, crise du jambon, crise de peu importe quelle que soit la crise.
Ouais.
Donc, évaluer la vitesse de propagation d'une crise et l'impact sur la consommation. Et puis ensuite, en combien de temps, on revenait à la normale ou on revenait pas à la normale.
D'accord.
Donc, là aussi, j'y connaissais rien du tout en études.
Maintenant on a compris, on s'en fout qu'ils connaissent quelque chose.
C'était un peu ça. Donc là, ça a été une aventure un peu dingue où les premiers rendez-vous, donc on montait la boîte, donc j'avais pas de bureau, j'avais un bébé qui venait de naître et c'était l'époque où on n'avait pas le droit d'avoir des bruits de chez soi parce qu'on n'était pas censé être chez soi. Donc je me revois enfermée dans un placard avec un téléphone, un client dans une oreille, un autre téléphone et mon associé dans l'autre oreille. Donc je reformulais les questions parce que je savais pas très bien y répondre. J'avais la réponse sur la droite et je disais la réponse à gauche. Et donc ça c'était on a monté ça, on a eu la chance de vendre cet outil qui était un outil d'étude incroyable pour l'époque. Maintenant quand j'y repense, très honnêtement, c'était un truc hyper novateur et très intéressant, mais c'était beaucoup trop gros.
Ouais.
Et beaucoup trop détaillé. Et en fait, mon premier client, ça a été Carrefour. Et quand j'ai ça nous a permis de démarrer parce qu'on avait un vrai gros client tout de suite pour payer le terrain, pour lancer l'opération. Mais c'était trop tôt. On savait pas exploiter les données comme on fait aujourd'hui.
Ouais.
Et très vite, on s'est rendu compte que ça pouvait pas continuer de la sorte parce que les clients ils avaient trop de données, ils savaient pas les utiliser. Et donc on a fait une petite on a réfléchi et puis on s'est dit il faut trouver d'autres clients et d'autres outils. Et là, encore une fois, un peu par hasard, encore une fois, un peu par chance, je rencontre les responsables d'un syndicat, le syndicat des parcs de loisirs et d'attractions.
D'accord.
Qui m'explique tout ce qu'ils font, à quel point ils sont fédérés, à quel point ils travaillent ensemble, à quel point ils échangent. Et puis en discutant, je me rends compte qu'ils font plein de choses ensemble, mais par contre, ils ne mélangent pas tout ce qui est expérience client. Donc, ils travaillaient sur les attractions, ils travaillaient sur la sécurité, ils travaillaient sur énormément de sujets ensemble, mais par contre, ils travaillaient pas du tout sur la partie client. En tout cas, ils n'échangeaient pas sur ce sujet-là, ils n'échangeaient pas sur la satisfaction des visiteurs.
D'accord.
Donc, je leur ai proposé de monter un dispositif qui serait un dispositif de mesure de la satisfaction des visiteurs de tous les parcs, mais un dispositif qui serait aussi un dispositif partagé, ce qui leur permettrait de se comparer les uns aux autres, de se benchmarker et d'évoluer.
Pas con, ça.
Et on est parti, j'ai réussi à les convaincre. On est parti la première année avec 3 parcs. Donc, c'était le syndicat qui finançait l'étude, parce qu'ils y croyaient, mais les parcs, ils avaient besoin de voir. Et puis, on est parti avec 3 parcs. Et puis, au fur et à mesure, on s'est développé. J'ai pu rentrer dans un très grand groupe, dans la Compagnie des Alpes. Oui. C'était Astérix et
Mer des Sables aussi.
Mer de Sable, exactement. Ouais. Après, le Futuroscope, un gros groupe. Et puis, la pertinence du sujet, la pertinence d'une étude partagée faisant son chemin, on a grandi sur cette cible pour arriver avec une 60aine de parcs de loisirs dans notre dispositif.
Tu te souviens d'un résultat qui aurait été marquant ou qui a marqué un tournant dans cette étude?
Ouais. En fait, c'était... maintenant, je pense que je peux le dire.
Ouais, il y a prescription.
Ils le savent tous, mais... ils étaient, c'est un milieu vraiment très, très impliqué. C'est un milieu incroyable parce que, quelle que soit la taille des parcs, t'as des gens qui c'est toute leur vie. Et ils essayent toujours de faire toujours mieux. Et moi, il y avait un parc que je ne connaissais pas, mais qui était dans les parcs que je suivais, qui était le Puy du Fou.
Oui.
Et je lisais les commentaires, parce que évidemment je lisais tout parce qu'il fallait que je comprenne tout. Donc au fur et à mesure, j'étais très 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 dans l'opérationnel, et je lisais tout et je lisais les commentaires du Puy du Fou et je me disais, mais c'est pas possible, les gens ils sont dingues, pourquoi, comment ils peuvent parler d'un lieu comme ça à ce point-là, comment ça peut être aussi extraordinaire, c'est pas possible. Il y avait vraiment un truc qui était bizarre. Et puis je les voyais, chaque année je leur donnais les résultats et puis j'avais jamais eu l'occasion d'aller sur le site. Et puis un jour je trouve enfin le temps et je descends avec mes enfants au Puy du Fou et là je comprends que c'était les champions de l'accueil comme on n'avait jamais vu et que les commentaires, les gens n'étaient pas fous, mais ils disaient bien la vérité. Et donc, tout le monde me demandait toujours qui est le meilleur, et je n'avais pas le droit de le dire. Maintenant, voilà, c'est dit, c'est fait.
L'histoire leur a donné raison. Ils sont toujours là et plutôt bien là, on va dire.
Exactement. Donc, et puis, qu'est-ce qui se passe après?
Ouais.
Donc j'ai fait ça pendant une bonne quinzaine d'années. Donc on avait vraiment bien développé notre institut. Grâce à la Compagnie des Alpes notamment, et puis aux clients qui changeaient de lieu, on a été jusqu'au Canada. On avait des parcs dans toute l'Europe. C'était vraiment un business de niche, mais un bon sujet. C'était vraiment intéressant. Sauf que, à un moment, moi, je me suis rendu compte que je m'y retrouvais plus. Et c'était pas par rapport au sujet, c'était vraiment très, très personnel.
Ouais.
J'avais de plus en plus le besoin de mettre du sens. Dans cette activité professionnelle, je sais pas, c'est bizarre, peut-être avec l'âge, avec
les 40 ans, voilà.
Et ben ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça. Il y a un moment où t'évolues, tes enfants grandissent, et puis j'avais peut-être un peu fait le tour du sujet aussi parce que je savais, donc peut-être que quand je sais trop, ouais.
tu t'emmerdes pour parler vulgairement, il faut, voilà. Faut faire autre chose.
Je n'irai pas jusque là parce que franchement c'était vraiment bien, et puis j'aimais beaucoup mes clients et c'était chouette comme relation, donc mais ça me suffisait plus. Mmh. Et puis je parle à mon associé et je lui dis, écoute, moi j'ai le sentiment que j'ai besoin qu'on fasse autre chose, j'ai besoin de mettre du sens dans mon activité professionnelle. Et puis il me dit, moi ça me tourne dans le cerveau depuis un moment et je suis d'accord, changeons. Donc, ça c'était cool parce qu'on est aligné, parce que c'est hyper, moi je suis une entrepreneuse mais je pense pas que j'entreprendrais toute seule, parce que c'est quand même des aventures super difficiles,
absolument,
le fait d'être deux, de savoir super bien bosser ensemble, de savoir où sont les compétences,
mais justement tu disais que ça avait été un coup de bol, cet associé là vous vous êtes trouvé comment?
Alors il se trouve que c'est le mari de ma sœur.
Ah, mais ça compte pas, ça.
Ça compte un peu parce que dans l'histoire, en fait, lui, il travaillait déjà dans les études de marché.
D'accord.
Et ils étaient partis vivre à La Réunion. Donc ça, c'est hyper perso, là, ce que je te raconte. Ils étaient partis vivre à La Réunion. Et en fait, moi, je vivais très, très mal, la distance avec ma sœur.
D'accord.
Ouais. Parce qu'on pouvait pas se regarder pareil, hein. Enfin, ouais. Téléphoner, ça coûtait une blinde. C'était pas si simple. Et je leur ai un peu pourri la vie en me disant, moi, ça ne va pas. Et donc, mon beau-frère me dit, OK, on rentre. Mais dans ces cas-là, on s'associe. Moi, je suis bon en plein truc, mais je suis pas un commercial. Et donc, on lance cette association.
D'accord.
Et c'est comme ça que c'est parti la première fois.
Ok, je comprends.
Voilà. Et donc,
ce qui fait aussi que vous êtes t'es d'entrée de jeu dans une logique de confiance et de confiance mutuelle.
Ouais.
C'est hyper important.
Hyper important. Hyper important. Mmh. Et,
ce qui explique aussi que ça va durer 16 ans et plus.
Exactement, ça sécurise drôlement, et puis on est dans la confiance, on est dans le respect mutuel, on est aussi, on sait qui on est, quoi.
Ouais.
Et c'est sûr que c'est une chance incroyable.
Donc au bout de 16 ans, vous vous dites tous les deux, bon, on a fait le tour.
Ouais, exactement. Et mais là, une fois que t'as posé ça, c'est pas super simple parce que en 16 ans, notre niveau de vie il a changé, parce que on a des enfants, parce que tu changes pas comme ça du jour au lendemain en disant j'abandonne tout et comme j'avais fait la première fois,
ouais.
c'était plus la même situation, donc il fallait trouver l'idée et puis s'assurer que ça prendrait et qu'on y arriverait. Donc on avait un petit dossier qui s'appelait développement et puis on a réfléchi à plein de sujets et puis à chaque fois il y avait quelque chose qui n'allait pas.
Mmh.
Et un jour mon lave-linge tombe en panne. Juste pile poil après la fin de la période de garantie, je fais venir un réparateur comme tout le monde et le réparateur me dit en fait on va pas réparer, vous allez acheter un nouveau lave-linge parce que réparer ça va vous prendre un temps pas possible, c'est même pas sûr que j'y arrive et si j'y arrive ça vous coûtera plus cher qu'un produit neuf.
Ouais, on a tous vécu cette expérience, hein.
Voilà, ça c'est un truc un peu commun, sauf que en fait moi quand ça m'arrive, d'abord ça me met super. je vais racheter un lave-linge parce que j'ai pas le choix, ouais. J'écoute, j'obéis. Mais en tant que citoyenne, ça me va pas. En fait, c'est bizarre dans la vie. Parfois, t'as des déclics, t'as des trucs qui vont vraiment. Faire que ça va te mettre en colère, faire que tu vas te dire c'est plus possible. Et moi c'est ça qui se produit. Et ça me met vraiment ultra en colère. Et je me dis on peut pas continuer comme ça. Donc j'en parle à Jacques, mon associé, mm-hmm. Il me dit peut-être qu'il est là notre nouveau sujet. Donc on ouvre une nouvelle case dans notre projet de développement.
D'accord.
Et on commence à dérouler ce fil.
Ça c'est quand c'est quand à peu près.
2013.
Ok.
Ouais. On commence à dérouler le fil et à regarder qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a 40 ans t'achetais de l'électroménager et on te mettait en avant que c'était de l'électroménager qui était là pour durer,
mmh.
Et pourquoi depuis en fait les produits ils duraient de moins en moins longtemps, on fait des études documentaires, on s'informe et puis ça nous fait dérouler un peu la pelote du fil de la délocalisation.
Ouais.
Parce que tu vois que les boîtes d'électroménager, elles produisaient plutôt en local et puis elles produisent plus de moins en moins et elles sont parties de plus en plus loin. Ça permet de regarder qu'est-ce qui se passe dans la réparation, c'est quoi le marché de la réparation.
Et, oui.
Et puis on arrive au gros mot qui est l'obsolescence programmée.
Ouais. C'est une réalité c'est juste une légende urbaine.
Alors c'est pas une légende urbaine, mais c'est pas complètement programmé non plus. C'est-à-dire que au fur et à mesure, les produits, on a essayé de les faire de moins en moins chers.
Ouais.
Donc qui dit produit fait de moins en moins cher, c'est aussi les plus faciles à concevoir et les plus faciles à industrialiser. Et donc c'est plus facile. Donc la réparabilité, elle n'était pas prise en considération.
Ouais,
donc tu vas souder, tu vas coller, tu vas faire des assemblages de plastique parce que pour mettre plusieurs pièces parce que c'est plus simple.
Ouais.
Et bref, tu peux pas réparer. Donc c'est pas de l'obsolescence. T'as pas des industriels qui se sont dit ah ah ah.
Il y a pas de plan machiavélique.
Non, je pense pas qu'ils se soient dit on va vendre plus cher, on va vendre plus souvent et allons-y. Mais c'est juste c'est juste une vraie évolution qui était de dire consommons, on s'en fout du reste. Donc produisons des produits facilement, vendons-les facilement, revendons-les facilement et voilà, et on est rentré dans ce cercle-là. Sauf que moi ça m'allait pas, ça m'allait plus. Qu'est-ce qu'on a fait? Donc une fois qu'on a fait tout ce boulot, on a fait deux choses. Donc on n'est pas des ingénieurs.
Ouais.
Alors, ça, c'était un premier sujet. Mais par contre,
important.
C'est pas mal. C'est assez important. Donc, un, on n'est pas des ingénieurs, mais deux, on a besoin d'écouter les clients.
Ouais.
On a fait deux choses. On a été voir l'ICAM, qui est une école d'ingénieurs à Toulouse.
Oui.
Et on leur a proposé de travailler sur un cahier des charges d'un lave-linge, qui serait la première ligne du cahier des charges serait un produit durable et réparable.
D'accord, ok.
On a choisi ce process parce que c'était intéressant, parce que on disait aussi très vite, vous n'êtes pas obligé de rentrer dans les codes de l'électroménager, vous avez le droit d'aller chercher des technologies ailleurs. Ce qu'on veut, c'est que elles aient fait leur preuve, la preuve de leur durabilité. On veut la réparabilité, donc on ne doit pas être dans des schémas classiques.
D'accord.
Donc c'était intéressant et ce qui se passait c'est que on avait des cohortes de 6 mois. T'avais un groupe d'étudiants qui bossaient sur le projet pendant 6 mois. Au bout de 6 mois, ils passaient le sujet à la cohorte suivante.
D'accord. Okay.
Et ça a duré 5 semestres. Et au bout de 2 ans et demi, j'étais pas là. Ah oui, c'est long. Jacques m'appelle, me dit on a lavé du linge. On a lavé du linge avec un proto fonctionnel, épouvantable, pas du tout un truc prêt à être industrialisé, mais en tout cas avec un produit qui répond à notre cahier des charges, c'est-à-dire un produit qui utilise des technologies qui ont fait leur preuve, qui serait réparable parce que toutes les pièces sont accessibles, parce qu'il y a une réflexion
c'est ce que j'avais
demandé.
Parce que la notion de réparabilité, ton lave-linge qui s'est cassé, il était réparable. C'est juste que économiquement, ça tenait pas le coup.
Ouais. Alors, c'est économiquement. Il y a le prix des pièces et puis aussi la structure. Donc, c'est pas facile. Il y a des pièces auxquelles tu peux pas accéder.
Ah oui.
Et donc, si tu veux pas accéder à la pièce, tu vas devoir changer le bloc. Et là, le bloc, économiquement, c'est plus rentable.
Ouais.
Typiquement, t'as ça. Ou sur les cartes électroniques, des cartes électroniques ultra miniaturisées, qui coûtent une blinde, et qui font que si tu dois changer la carte électronique, il vaut mieux que tu changes l'appareil.
Ok.
Donc, on a fait ça. Donc, 2 ans et demi,
Pour faire une machine, ça fait long quand même.
C'est vachement long et puis c'est pas fini parce que en fait c'était tout remettre à plat mais nous ça a été le déclic pour dire on peut le faire et c'était ça qui était important parce qu'en parallèle qu'est-ce qu'on avait fait, on avait écouté on avait interrogé.
Ouais.
Et on avait écouté et alors on a fait des études plutôt en quanti mais un peu en quali aussi pour voir si on était les seuls, si ma colère citoyenne, si mon envie de consommer autrement c'était la mienne ou si elle était partagée. Et ce dont on s'est rendu compte à travers ces études, c'est que c'était ça, c'était Alors, pareil, hein, on parlait pas d'obsolescence programmée il y a 6 ans comme on en parle aujourd'hui, mais il y avait des signaux faibles. Il y avait des choses qui nous faisaient dire on n'est pas les seuls et on va dans le bon sens. Donc, un proto fonctionnel qui tourne, des consommateurs, un marché, une tendance de marché qu'on sent et on se dit ok, eh ben pour coup, on y va. Mais alors évidemment pour y aller. C'était pas en dilettante mon institut d'études et on y bossait beaucoup, donc on pouvait pas mener deux choses de front, surtout que c'était un projet un peu dingue. Mais donc on a vendu l'institut d'études. D'accord. Là encore, une chance de dingue. Enfin, ouais, j'ai ça en tête. Je lis sur LinkedIn un témoignage d'une boîte d'études que je connais, du patron d'une boîte d'études que je connaissais et qui disait ben voilà, je suis hyper content. Je viens de vendre ma société et j'ai été accompagnée pour faire ça, j'aurais jamais réussi, j'ai été accompagnée par une structure. J'ai lu ça, c'était juste le bon moment. Donc j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé cette structure et je leur ai dit par est-ce qu'on peut se rencontrer. On les a rencontrés, ils nous ont dit ben voilà, OK, ça nous voilà ce qu'on en pense. Dans un an, vous aurez vendu et vous aurez vendu tant.
Ok.
Si vous le dites, donc nous on est sortis.
Ils sont sur deux.
Ouais, ils sont gentils. Sur deux. Alors on s'est dit qu'ils étaient gentils au début parce qu'on n'y a pas cru. Mais bon, on s'est dit allons-y et tentons le coup. Un an après, on avait vendu au prix qu'ils nous avaient annoncé.
D'accord.
C'était chouette. Et donc là, on est en octobre 2018. On a vendu notre boîte.
Ouais. Ça te fait quoi de la vendre? Parce que quand même, tu l'as créée.
Ouais.
Tu l'as développée. Ça marche bien, a priori tu la vends bien.
C'était un vrai passage d'étape. Alors j'ai accompagné les acheteurs pendant quelques mois, ce qui m'a permis de pas couper le cordon d'un seul coup d'un seul. Mais c'était bien. En fait, c'était bien parce que. Je me suis rendu compte à quel point, en fait, j'avais besoin de passer à autre chose.
Ouais.
Et le plus dur, ça a été de dire au revoir à mes clients, franchement. Mais bon, je leur parle encore et.
Puis ils t'invitent dans leur parc, de loisirs.
Les pauvres, ils sont fermés. Ouais. Là, franchement, c'était pas la meilleure
c'est
période
vrai,
pour.
Vrai,
voilà. Mais en tout cas, enfin, ouais, c'était humainement que ça a été difficile. Pas professionnellement parce que j'avais envie de passer à autre chose.
Alors, il y a quand même une question parce que en allant vers ce marché de l'électroménager, c'est un marché qui demande beaucoup. Alors déjà des investissements en amont, puis après ça demande de produire. Enfin, c'est très capital intensive comme on dit.
Ah, c'est le moins qu'on puisse dire.
C'est-à-dire qu'il faut mettre beaucoup d'argent sur la table avant d'espérer vendre quelque chose.
Ouais.
Alors, je peux comprendre que il y a une partie qui vient de la vente de votre boîte, mais c'est peut-être pas forcément suffisant. Enfin, comment vous réfléchissez ça à ce moment-là?
Alors à ce moment-là, on monte la structure, on réfléchit à la structure.
D'accord.
Et on prend une décision qui est une décision forte, deux décisions. La première, c'est de dire on veut faire une marque d'électroménager. Donc petit et gros.
Ouais.
Et le sujet pour nous c'est de vendre des produits durables et réparables.
Ok.
Et on se dit des produits pour la vie globalement. Et donc la première décision c'est de se dire on va pas arriver sur un marché aussi compliqué avec un lave-linge là maintenant tout de suite parce que trop lourd en à tous les niveaux, trop lourd en termes industriels, trop lourd en termes de logistique et puis en termes de promesses clients, comment tu vas arriver avec un produit relativement cher en disant croyez-moi il est réparable à vie, voilà. Donc on se dit
puis
on
c'est
va
un produit excuse-moi mais c'est un produit qui est critique dans une famille, c'est critique le lave-linge hein. Et plus t'as d'enfants, plus c'est critique.
Non, mais c'est clair. Donc, tout ça fait qu'on se dit, on va d'abord installer tout avec un produit de petit électroménager.
D'accord.
Ça, c'est une vraie décision très, très fondatrice et très stratégique pour nous. C'est de dire, voilà, on commence, on va installer tout avec du petit électroménager. Et quand je dis installer tout, c'est parce que notre démarche, elle est complète, assez radicale et complète. C'est-à-dire que, on conçoit, on éco-conçoit, mais aussi on a pris la décision de produire et d'assembler, d'industrialiser nous-mêmes et d'assembler nos produits, ensuite de les vendre. Et donc ça veut dire...
Tu deviens encore plus capital intensive.
Exactement. Ça veut dire, vous êtes dingue les gars, oui. mais bon, voilà, on l'assume, on y croit. Et pourquoi on prend la décision de gérer la production? Parce que ben, autour de nous, on voit que y a d'autres gens qui ont pensé à faire ça, à faire notamment du durable, ouais. Et qui se sont cassés les dents parce que ils ont décidé d'externaliser l'industrialisation.
Oui.
Donc nous, on prend la décision d'internaliser l'industrialisation. Et si on intègre l'industrialisation, on va au bout de notre démarche citoyenne et on dit on va produire le plus localement possible. D'accord. Ce qu'on veut, c'est relocaliser, c'est produire en France.
Okay.
Pourquoi produire en France? Pour un, des raisons écologiques et des raisons environnementales, et deux, des raisons sociales. C'est un des vrais piliers de notre approche,
ouais.
C'est de se dire, nous, ce qu'on veut, c'est une production qui soit une industrie réellement socialement responsable, inclusive et qui permette de créer des emplois locaux pérennes et qui aient du sens.
Ouais, donc, d'accord.
Une fois que j'ai dit ça, tu vois un peu le...
Ah bah, je vois l'ambition, je vois le positionnement, très RSE, etc., etc. C'est pas le plus simple.
C'est pas le plus simple, mais on a la volonté, on a l'expérience, parce que malgré tout, même si c'était des expériences dans d'autres domaines, on sait faire certaines choses et on sait surtout être très humble,
ouais.
et apprendre des autres et échanger et être très ouvert. Et ça nous permet de discuter, de nous ouvrir et d'apprendre énormément et de structurer la première production de notre premier produit en se disant, donc, t'as une partie éco-conception.
Ouais.
Ensuite, t'as une partie industrialisation. Sur cette partie industrialisation, il va falloir qu'on noue des partenariats solides, mais avec des gens dont on partage les valeurs, mmh. Et qui auront envie et qui ont envie de prendre le risque avec nous, parce que même s'ils investissent pas dans la boîte, quand tu demandes à un industriel de faire des produits, ça veut dire beaucoup d'études au préalable, ça veut dire beaucoup de tests, ça veut dire prendre un risque avec toi. Donc
ouais.
Nouer des partenariats solides, trouver les acteurs avec qui on va nouer ces partenariats solides, et puis sur la dernière partie de la chaîne qui est la partie assemblage, on se dit, nous, ce qu'on veut, c'est cette vision d'inclusion qui était importante, et on s'est rapproché, on a eu la chance de rencontrer à ce moment-là une entreprise industrielle adaptée.
D'accord.
Donc, une entreprise industrielle adaptée, ça veut dire que c'est vraiment un acteur industriel, et adapté, c'est que eux, ils emploient essentiellement des personnes en situation de handicap.
Mmh.
Donc, ils ont une vision particulière puisque les postes sont créés pour être occupés par des personnes en situation de handicap.
Oui.
Donc, c'est une structuration un peu particulière, et nous, on a adoré ces gens. Ça a tout de suite matché entre eux et nous, et on s'est dit on a envie de commencer avec vous, de nous permettre nous de nous développer, mais de vous permettre aussi de vous développer. Et donc le partenariat qu'on a avec cette structure qui s'appelle Aero 15 IMCA, qui est à Toulouse, c'est de monter avec eux toute la structuration de l'unité de production.
Mmh.
Donc on a les équipes, on a les outils. On a le modèle, on a la partie logistique, et une fois qu'on aura fait 10 000 pièces chez eux, l'objectif c'est de proposer aux collaborateurs de Aero 15 IMCA de venir rejoindre les équipes de Keepit.
D'accord.
De sortir, alors pour eux c'est intéressant parce que ça rentre dans le process, ça s'appelle sortie positive, c'est un terme horrible.
Ouais.
Mais pour l'entreprise adaptée.
Réinsertion, oui.
Ouais, voilà, c'est ça. C'est pas super valorisant mais il se trouve que c'est un des objectifs des entreprises adaptées. Donc pour eux c'est chouette, et pour nous ça nous permet vraiment ça nous a permis tout de suite de commencer avec une structure qu'on n'aurait pas pu avoir évidemment en partant tout seul. Donc on a monté tout ça.
Alors ouais, parce que là t'as le produit, on va dire t'as le concept du produit, t'as la conception
du produit, tu peux produire,
mais
pas encore. Enfin,
t'es en capacité de éventuellement tourner la clé.
Ouais.
Mais t'as pas de clients.
Ça met longtemps. Mais j'ai pas de clients. Donc j'ai un prototype, j'ai un premier prototype. Là, pareil, c'était un petit challenge que j'avais donné à Jacques. On vend notre institut d'études en octobre 2018. En novembre, je me trouve à aller au salon du Made in France pour la première fois. Je découvre ce salon.
Ouais.
Et je sors de là et j'appelle Jacques et je lui dis, moi, je te préviens, l'année prochaine, on est là et on vend notre premier produit là. Il rigole doucement. Il avait raison, mais c'est pas grave.
Ouais, ça te ressemble bien, en fait.
Voilà. Il faut un peu d'ambition dans la vie. Donc, et un an après, on n'avait pas de produit, mais on avait un prototype. On avait un prototype, on avait une démarche.
Ouais.
Et en fait, on était présent sur le salon avec un tout petit stand, mais on était là avec notre proto, avec la vision de notre démarche. Et ce qui a été dingue, c'est que juste avec ça, on a rencontré vraiment les premiers keepers.
D'accord.
Donc les premiers futurs consommateurs. On a eu une adhésion de dingue à notre proposition. On a eu tout de suite pas mal de presse, ce qui est génial.
Ouais, parce que quand on va sur le site web de Keep It et dans la rubrique on parle de nous,
c'est dingue.
C'est impressionnant, hein.
Ouais.
T'as mais même fait de la suite, télé, Karen.
Ouais, trop drôle. Ah, j'ai pas fini, c'est hyper drôle.
Classe.
mais tout de suite, on a eu beaucoup de presse et en plus, on a gagné un prix sur ce salon.
D'accord.
On a gagné un prix de l'innovation. Et là aussi, c'était une aventure de dingue parce que je remplis le dossier en me disant, t'es mignonne, mais nous, c'est vraiment pas une innovation technologique. Ce que je vendais, c'était une innovation d'usage sur le produit, je t'en reparlerai. Ouais. Une innovation d'approche. C'était tout sauf de la tech.
Oui,
et je reçois la liste des 5 shortlistés. Et globalement, t'avais du paiement en ligne, t'avais un truc, c'était ultra technologique.
Ouais.
Et là, je dis, bah alors, soit j'ai aucune chance, soit il y a que moi, parce que c'était pas du tout comparé en termes de comparaison, c'était pas du tout comparable aux autres produits. Et en plus, ils ont été terribles parce que j'essayais de savoir et en fait, on n'a pas su. On n'a vraiment pas su qu'on avait gagné. C'était hyper drôle parce que la remise du prix, c'est le premier soir du salon à 18h et à 17h55, il y a la fille du salon qui passe sur mon stand et qui dit « ça serait sympa que vous veniez pour la remise des prix ». Donc là, je me suis dit, moi aussi, elle me dit ça quand même. Mais il était 17h55. Donc en fait, vraiment, on ne savait pas. Et le prix, ça a été super bien en termes de visibilité. Donc, première rencontre avec la presse, première rencontre avec les keepers, et puis un prix, tout de suite un prix.
Ça commence à sentir bon, tout ça. Quand même.
Ça commence à sentir bon. On a recruté à ce moment-là le premier membre de notre équipe, un ingénieur, parce qu'on avait un proto, il nous fallait quelqu'un pour orchestrer l'industrialisation.
Mmh.
Donc, on recrute une première personne qui est ingénieur, mécatronicien, qui est un mec juste génial. Et qui
un mécatronicien
vision...
C'est quoi
mécatronicien.
Un mécatronicien, d'accord.
Ouais, et qui dit... qui est super aligné en termes de valeurs avec nous et dit « Ok, je pars avec vous, on y va ». Et donc, on commence à travailler sur comment d'un prototype, tu passes à la phase d'industrialisation.
Ouais.
Il y a un énorme travail de sourcing super compliqué. Mais on avance.
Ouais.
On avance petit à petit. Et
tu
n'as
pas dit,
maintenant,
Karen, tu n'as pas dit encore que c'était une bouilloire, votre produit.
J'ai pas dit encore que c'était une bouilloire, je vais en parler après de ma bouilloire géniale, ma bouilloire multifonction, parce que c'est bien plus qu'une bouilloire. Mais on avance, c'était une chouette période où c'était difficile parce que très très dur de trouver un fournisseur d'inox, ultra compliqué, très dur d'avancer. Certains renoncements parce qu'on voit que notre système, le système de chauffe qu'on a choisi, il n'est pas produit, il n'existe pas ni en France ni en Europe.
D'accord.
Donc obligé d'aller en Chine pour le chercher. Aucun choix, aucune possibilité de faire autrement. Donc voilà, c'est des périodes. T'es hyper content et puis après t'es désespéré parce que t'as lancé des études et puis ça marche pas. Enfin,
ouais.
Bref, c'est
les montagnes russes
émotionnelles, ouais, non-stop. Mais on dit on avance bien, on va maintenant, il va falloir qu'on aille chercher des sous.
Oui.
Et oui, il va falloir qu'on aille chercher des sous. Et donc, on rencontre d'abord plutôt les institutionnels. Donc, on rencontre la BPI, on rencontre des banques.
Ouais.
Et la BPI, ça se passe super bien. Et ils nous accordent le statut d'entreprise innovante.
D'accord.
Et ça, c'est une super ouverture quand tu veux te lancer dans une, surtout dans une entreprise capitalistique.
Ça donne quoi?
Ça donne des garanties. Alors, ça donne des prêts, d'abord. Donc, tu peux négocier des prêts avec la BPI.
D'accord,
ouais. Mais c'est surtout une vraie caution par rapport au réseau bancaire traditionnel.
Ouais.
Donc, t'as pas le même statut.
Si le dossier a été validé par la BPI avant, ouais, c'est que, bon, il y a quelque chose.
C'est qu'ils peuvent le regarder. Mais, donc, ils peuvent le regarder, mais ils nous disent, mais vous êtes gentil, vous êtes mignon, vous racontez votre histoire, c'est génial, on a trop envie d'acheter votre produit et tout ça, mais est-ce qu'on est les seuls? Il nous faut une preuve de marché. Ok, il faut une preuve de marché, mais on n'a pas de produit. Alors, comment tu fais une preuve de marché quand t'as pas de produit? Eh ben, tu fais ce qu'on appelle du financement participatif,
ouais,
donc du crowdfunding, c'est-à-dire que tu vas vendre un projet à des futurs consommateurs qui savent qu'ils prennent un risque avec toi. Donc, je commence à travailler.
Un risque très limité, hein, puisque ouais, en gros, ils s'engagent à acheter si jamais ça se fait.
Exactement, exactement. Mais ils s'engagent quand même à, ils déboursent quand même de l'argent,
ouais,
ils s'engagent quand même autour d'un projet.
Absolument.
plus que d'un produit. Donc je fais une petite analyse du marché, je trouve une plateforme qui est la plateforme Ulule avec qui ça matche super bien. J'aime beaucoup leur approche, c'est une plateforme française.
Ouais.
J'ai une conseillère qui est incroyable, elle répond à toutes mes milliards de questions, je me dis mais là pour parce que pareil, ben j'avais jamais fait. Donc je découvre tout, mais il faut que ce soit bien, donc je suis un peu pénible et très pointilleuse, et donc on commence à monter toute la campagne.
C'est quoi les difficultés que tu as vues justement sur le fait de monter cette campagne?
Ben, nous, on n'avait jamais fait de com comme ça, donc il faut que tu crées, il faut que tu fasses un film, il faut que tu crées un univers visuel autour de ta campagne, il faut que tu réfléchisses à l'animation de cette campagne, il faut que tu arrives à faire du bruit. Enfin, tu vois, il y a plein de sujets,
ouais,
des sujets plus ou moins compliqués, plus ou moins triviaux, mais malgré tout, il faut que visuellement ça le fasse, que les gens aient envie de regarder ton film, qu'ils ont envie de regarder, il faut que tu trouves les bonnes contreparties. Enfin, maintenant ça me paraît facile, mais sur l'instant c'était pas si
ouais,
simple.
Et puis il y a un je sais pas si c'est un piège ou en tout cas un biais, parce qu'on a l'impression que on va accéder immédiatement à une foule de potentiels, sauf que au-delà de tes amis et de ta famille,
et ben ils font bosser,
ouais,
exactement. En fait, je découvre ça aussi à ce moment-là, c'est-à-dire que ce qui se passe sur ces plateformes, globalement, ils te disent c'est d'abord une plateforme de mise en ligne de ton projet,
ouais,
avant tout. Et c'est toi qui vas faire, c'est toi qui vas amener tous les premiers consommateurs.
Absolument.
C'est toi qui vas devoir prouver que ton produit vaut quelque chose avant qu'ils t'ouvrent les vannes, eux, de leur communauté via leur communication.
Oui.
Donc, le début, c'est toi.
Tu dois d'abord, prouver que tu as de la traction.
Exactement. S'il n'y a pas de traction, ton produit, je ne sais pas combien il y a de campagnes en même temps sur la plateforme. Donc, juste ton positionnement sur la plateforme dépend du nombre de ventes que tu fais chaque jour,
ouais,
par 24 heures.
Ouais.
Donc, si tu fais pas de vente, tu dégringoles très, très vite au bout de la plateforme et ça fonctionne pas. Donc, il y a un gros travail à faire en amont de création de fichiers. Donc, je t'ai dit, nous, on avait eu un prix, on avait eu de la presse. On commençait à avoir, c'était assez marrant, on avait sorti notre site internet et on commençait à avoir vraiment des gens qui s'inscrivaient spontanément à la newsletter en disant « Ah, ça me plaît trop, j'ai envie d'en savoir plus. » On trouvait ça incroyable.
C'est génial d'avoir ça. Hein.
Sans qu'il y ait de démarche, hormis cette présence sur, ouais, le salon du Made in France et puis la presse, parce que ça a quand même vraiment beaucoup joué pour la visibilité.
Ouais.
Et donc, on commençait à avoir une petite base. On avait 3000 personnes inscrites sur notre plateforme. C'est pas dingue, mais c'est pas rien non plus.
Ouais.
pour un truc qui n'existe pas. Donc on avait tout ça, et puis Lucille, donc qui s'occupe de moi chez Ulule, me dit maintenant il faut que tu fixes un objectif. Les banquiers me disaient il te faut une preuve de marché, ok. Et donc on dit eh ben on va fixer. Alors elle me dit il faut que ton objectif il soit atteint dans les premières 24 heures, sinon tu n'arriveras jamais à faire décoller ta campagne dans l'algorithme de la plateforme. Mmh. Donc pour ça, elle me donne tout plein de tuyaux. Il fallait que j'ai prévu une liste de 30 personnes qui étaient sûres d'acheter mon produit, que je leur envoie un SMS au moment où j'appuie sur le bouton pour qu'ils commencent.
Il fallait préparer le truc, oui.
Ah ouais, il y a tout un, une stratégie de dingue. Donc je fais tout ça. On affiche nos 10 000 euros. Évidemment, avec Jacques, on se dit, bah, avec 10 000 euros, on sera content, mais c'est pas la preuve de marché qu'on attend. On espère en faire 150. On se met bien une bonne petite pression. Et là-dessus arrive donc en fait on devait lancer la campagne le 30 mars 2020.
Oups.
Et ouais. Donc le 12, on était en train de finir le film qui n'a jamais été fini parce qu'on devait retourner des scènes le 17. Ouais. Donc il a fallu monter autrement et donc tout s'arrête. Sidération comme tout le monde. Je pense qu'on a tous vécu cette espèce de moment incroyable où tout s'arrête. Et nous, on se dit, on fait quoi? Parce que comme on en a parlé, ben on avait commencé à investir beaucoup d'argent dans l'histoire et on n'allait pas perdurer comme ça indéfiniment sans avancer, sans travailler sur le financement, sans vendre. Et ben là, on fait ce qui pour nous très logique parce que c'est notre vision et puis c'est une marque qu'on veut être une marque vraiment centrée sur une communauté. Donc on écrit à tous les gens qui s'étaient inscrits sur notre fichier, donc les keepers, et on leur dit voilà la situation. Nous on avance, on a besoin très clairement, on a besoin de d'aller plus loin maintenant et on veut votre avis. Est-ce qu'on lance maintenant la campagne? Tout est prêt pour lancer la campagne, on avait prévu de le faire. Est-ce qu'on la lance maintenant ou alors est-ce qu'on attend la fin du confinement? Et en appuyant sur le bouton, on avait c'est quand même beaucoup de pression.
Un peu fébrile, ouais.
Ouais, parce que clairement économiquement ça allait commencer à être bien bien tendu si on faisait rien, surtout que on savait pas du tout combien de temps ça allait durer cette histoire.
Oui.
D'ailleurs, on le sait toujours pas. Toujours pas. Donc on envoie ce mailing et là se produit encore un truc de dingue, c'est-à-dire que 80% de nos mails sont ouverts.
Ouais.
Donc tous les gens c'est qui beaucoup. Font des mailings se disent mais c'est quoi cette histoire, 80% de nos mailings sont ouverts et il y a 60% des gens qui répondent. Donc non seulement ils ouvrent le mail, ils lisent le mail, mais en plus ils répondent
alors
à notre
que
question.
Quand tu fais normalement si t'atteins les entre 10 et 20% c'est déjà
content.
C'est déjà exceptionnel donc ouais.
Exactement. Un truc incroyable. Donc en fait même sans avoir lu la réponse je m'étais dit c'est bon quoi, on a le truc parce que ils sont 57% à dire allez-y, donc ils nous en font pas plus.
La majorité.
On a la majorité, on y va. Donc on finit l'histoire, on fait cette fameuse liste avec tous les noms. Ouais. Je mets le projet sur la plateforme et puis c'était marrant parce que sur cette plateforme tu pouvais t'abonner. Tu peux t'abonner sur Ulule à un projet, tu peux dire ça, je veux le suivre.
Oui.
Et c'était marrant parce que donc Lucille qui s'occupait de nous chez Ulule me disait oh, c'est marrant quand même, t'as de plus en plus de gens, ça sent bon ton projet, en plus il me plaît, mais en plus il a l'air bien parce que il y a vraiment beaucoup de préinscriptions.
Mmh.
Et donc le jour du lancement de la campagne, j'appuie sur mon bouton, j'ai mes SMS de prêt et tout ça, j'appuie sur mon bouton et là je peux pas me mettre à envoyer mes SMS parce que je suivais en direct et je vois une vente, deux ventes, trois ventes et 2000 euros, 3000 euros, 4000 euros. En 20 minutes, on avait fait les 10 000 euros qui était l'objectif.
Incroyable.
J'avais même pas eu le temps. On voyait.
T'avais pas appelé ta base
mais
proche.
Non. Et mon mari, il a eu la 12e. Il avait trop les boules parce que il voulait la première et il l'a pas eu. C'était incroyable. Ce moment, c'était incroyable. Et franchement, les campagnes de financement participatif, quand ça se passe comme ça, c'est un moment, mais de dingue.
Ah ouais.
Avec tout de suite beaucoup de commentaires et on a commencé à échanger. Donc, moi, j'ai pris la décision à ce moment-là parce que c'est une marque communautaire concrète. Donc, de répondre à tous les messages, d'écrire moi, signé Karen, à tous les gens qui nous posaient des questions. Et donc, on a vraiment commencé à discuter.
Tu te caches pas derrière un service client,
Là, c'est pas ça. là, c'était nous. Et donc, on a vécu 30 jours de dingue. Puisque, en fait, c'est pas 100 000 euros ni 150 000 qu'on a fait, c'est 245 000 euros. En 30 jours, et on a pré-vendu plus de 1000 bougeoirs multifonctionnels.
Ce qui me semble, alors, il y a les chiffres de ce qu'on voit aux États-Unis, etc., où en général, ça peut exploser aussi. Mais en France, je suis pas persuadé qu'il y en ait tant que ça des...
Non, on a été tout de suite dans les 25 meilleurs projets les mieux financés sur la plateforme, sachant que, tu vois, c'est les jeux vidéo en termes industriels, ils avaient jamais eu un projet qui faisait un truc comme ça.
Ouais, je comprends.
Et c'était totalement dingue. Et donc on a fini, on avait notre preuve de marché. Il fallait qu'on continue à travailler l'industrialisation, mais voilà, on avait vraiment quelque chose et derrière ça s'arrête pas, il a fallu passer à l'étape d'après, nouvel apprentissage, ça a été de dire on a le marché, on a les banques qui nous suivent, mais les banques elles financent une partie mais elles financent pas tout, donc il va falloir faire une levée de fonds. Et là, engagement dans la nouvelle aventure, levée des fonds.
Découverte d'un nouveau monde.
Et totalement, mais ça, je pense que tu as déjà parlé avec des gens qui font des levées de fonds, mais c'est tout est à apprendre, tout est à découvrir. D'abord, il faut apprendre le jargon.
Oui.
Donc, la première étape, c'est
j'apprends pré-monnaie, la post-monnaie, ratchet, tout ça.
Exactement. Première étape, j'apprends la langue. Parce que les premiers rendez-vous... Non, mais c'est vrai, les premiers rendez-vous, si tu n'utilises pas le vocabulaire, mais t'es pas crédible.
Ben oui, tu passes pour un guignol.
Tu passes pour un guignol. Donc, première étape, t'apprends la langue, t'apprends à t'en servir. Et puis après, tu prends ton bâton de pèlerin et tu vas pitcher et tu vas...
Déjà, t'essaies de décrocher les rendez-vous, peut-être. Non, ça allait.
Ça, c'était... On a eu de la chance. On a eu de la chance. Ça revient souvent, ça, j'ai l'impression.
Je confirme.
Ouais, ça revient souvent, mais je sais pas. En tout cas, peut-être qu'on sait la saisir, j'en sais rien. Mais enfin... je regarde qui mon projet peut intéresser. Donc je m'intéresse, je fais des recherches et je tombe sur une structure dans laquelle il y a un fonds d'investissement, mais c'est surtout une structure qui accompagne, qui est plutôt une structure qui accompagne des projets, qui s'appelle Make Sense. Qui me semble très très aligné en termes de valeurs, je remplis un petit formulaire sur internet en disant et puis je reçois 10 jours après votre projet nous intéresse pas, rentre pas dans notre grille. Ok, je me dis c'est quand même dommage parce que moi je trouve que
ça rentre pourtant,
ça rentrait bien. Et là oui, c'est encore de la chance, il y a une des analystes de Make Sense qui a lu le dossier. Et il y a un salon, Change Now sur un salon réel, et elle m'envoie un message. Je m'inscris sur Change Now et puis elle me dit, je voudrais vous rencontrer. Donc sur ces salons, c'est de plus en plus, c'est assez marrant, mais donc t'as des espaces pour te rencontrer avec une table, t'as 25 minutes pour avoir ta table ou un quart d'heure, je sais pas.
Ouais.
Et donc je rencontre Margot et puis on commence à parler et puis au bout de du temps, on nous dit, vous pouvez dégager de la table, on se bouge, on va à une table, et puis, en fait, on est resté une heure et demie, et en partant de là, elle dit, moi, il faut que j'en parle chez moi, parce que j'ai trop envie qu'on accompagne Keepit.
Et pourtant, ils avaient dit non.
Et ils avaient dit non, mais bon, on s'était pas rencontrés. Elle me dit, j'ai trop envie, et deux jours après, parce que je m'étais pas trompée, on était fait pour travailler ensemble parce qu'on a une logique très très commune. Deux jours après, je reçois un message, elle me dit, si tu veux, je te fais rencontrer une des dirigeantes de la boîte mais ça engage à rien, hein, tu la rencontres. Donc Jacques vient à Paris, on rencontre Alizée qui est une des dirigeantes de la boîte et rendez-vous juste incroyable. Enfin, C'est super alignement. Nous, on sort de là, on dit, mais bon, c'est génial, quoi. On a trop envie de travailler avec eux. Ouais. Et elle nous propose sans nous proposer. Mais ça, on l'a compris que plus tard, parce que pour nous, c'était plié. On allait travailler avec eux. C'était bon. Ouais. Mais finalement, c'était pas si simple. C'était pas si clair. J'ai su après que c'était pas si clair.
Vous avez pas sorti une term sheet, comme on dit.
Non, voilà. Mais très vite, les choses se mettent en place et on rentre dans un programme qui nous a bien aidé, qui était un programme, une sorte de programme incubation à la levée de fonds.
Ouais.
Et c'est pour ça que finalement, je pense que j'ai pas vu la difficulté d'avoir les rendez-vous parce que tout de suite, je pouvais m'appuyer sur tout ce que j'ai appris dans cette période d'incubation. Je pouvais m'appuyer sur eux. Je pouvais dire, je vous appelle de la part d'eux.
Ouais.
Et finalement, ça a été, ça s'est plutôt bien passé. J'ai fait des petits concours parce que quand t'es un entrepreneur, un start-upper, tu fais des concours, tu gagnes des concours, tu gagnes en visibilité. Et de là, des concours, j'ai fait des concours autour de la levée de fonds. Et j'ai gagné une session régionale d'un concours de pitch.
D'accord.
Qui faisait que ça m'a ouvert quatre réseaux de business angels qui m'ont contacté. Et donc ça s'est fait plutôt.
Tu as gagné tes lettres de crédibilité sur la logique de levée de fonds et de financement, quoi.
Exactement, exactement. Et donc on avance sur ce sujet-là, mais comme on fait jamais, on a un projet très 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 clair en tête et j'en ai déjà parlé. C'est un projet très communautaire, notre histoire. La communauté d'équipeurs, elle est ultra importante pour nous et on est en train de voir comment on va structurer cette levée de fonds. Et là, Jacques dit oui, mais il faut que les keepers soient intégrés. Il faut qu'on donne la possibilité aux keepers d'être intégrés aussi dans cette levée de fonds.
Oh, ça va compliquer l'affaire, ça, Steph.
Ouais. Donc, je dis, t'es sûr? Oui, oui. Alors, OK. Alors, on vient de finir une campagne de crowdfunding. C'est pas grave. On va aller regarder des plateformes de crowd equity et puis on va se remettre dans la même histoire. Donc, je rencontre les gens de Lita.co, de Tudigo, super intéressant.
Crowd equity, en gros, c'est la foule qui participe à une augmentation de capital d'une société.
Exactement, exactement. Tu deviens actionnaire de la société, c'est pas de l'actionnariat individuel. Tu rentres dans un véhicule d'investissement et ces structures-là fonctionnent un peu comme Ulule, c'est-à-dire c'est des plateformes. Tu mets ton projet, t'animes ton projet et tu collectes les fonds. Mais moi, ça m'allait pas.
Ah.
Ça m'allait pas parce que ça mettait un intermédiaire entre le keepers et nous.
Oui.
Puisque la plateforme, c'est la plateforme qui devient actionnaire. Tu vois, elle monte un truc la plateforme qui devient actionnaire.
Mais Karen, c'est aussi parce que si t'as 300 petits actionnaires avec 4 actions, toi en tant que dirigeant, tu te retrouves avec des conseils d'administration de fous furieux.
Ouais. Et c'est pour ça que on a parlé à notre avocat, on avait un avocat pour gérer, pour travailler sur la levée de fonds, et on lui dit nous on aimerait bien pouvoir permettre aux keepers de rentrer, on n'a pas envie de passer par une plateforme, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors il réfléchit, il travaille, et puis il nous fait un projet, parce que t'as pas le droit de faire de l'appel à l'épargne publique,
non.
Tu sais, c'est pas légal. Donc il monte un dispositif légal, et c'était super drôle parce que il fait ça. Et il disait tout le temps, oui, j'ai fait ça pour vos petits keepers. Parce que, il se disait, ils sont mignons. Ils croient qu'ils vont dire, coucou, c'est nous, et que tout le monde va les suivre. Et il était marrant parce qu'il disait tout le temps vos petits keepers. Et on dit, on a la structure. On envoie un premier mail à toute notre base.
Mmh.
On reçoit 250. Donc, un mail où on disait, voilà, Keepit est en train de faire une augmentation de capital. Est-ce que ça vous intéresse d'avoir des informations? On reçoit 250 marques d'intérêt. Des gens qui nous disent, oui,
c'est beaucoup.
J'ai envie de savoir.
Mmh.
Donc, des gens trouvent que c'est beaucoup, mais voilà, c'est chouette. Et on commence à envoyer des informations. On propose une réunion par Zoom. Alors, pour ça, pour le coup, c'est chouette parce que c'est plus facile de réunir tout des gens de partout en France et notre avocat et donc on organise une réunion qui dure 2 heures, réunion pendant laquelle il va répondre à toutes les questions.
Mmh.
Et et on envoie une nouvelle information avec une lettre d'intention et on reçoit 109 lettres d'intention.
C'est énorme.
Pour un montant, plus de 250 000 euros.
Mmh.
On s'était mis ça comme plafond. Et donc, des petits keepers, l'avocat, il a arrêté de dire petits keepers. Ils ont passé du statut de petits keepers à keepers tout court parce que finalement, ça en fait un actionnaire important qui nous a permis de structurer cette première levée de fonds avec deux fonds à impact. Donc, c'est le fonds de Make Sense dont je t'ai parlé, oui. Et un deuxième fonds qui est le fonds de France Active, qui est pareil, une structure vraiment chouette avec laquelle on est vraiment aligné et on est content de les avoir à notre table.
Ouais.
Deux fonds, deux business angels individuels qui avaient trop envie de partir et d'être là en leur nom. Et puis, les 109 Keepers qui sont dans une société d'investissement qui s'appelle Keepit Investissement, mais qui sont aussi présents autour
d'accord,
de la table.
Ok, je comprends. Et donc là, on est à peu près à ce moment-là. C'est ça?
Et alors, on est presque à ce moment-là, mais on est un peu plus loin que ce moment-là, ouais. puisque là, maintenant, tout ça nous a permis de faire grandir l'équipe.
Ouais.
Donc, de 3, on est passé à 6.
Mmh.
On a doublé
les effectifs.
On a doublé les effectifs. En fait, on est même 6, 1 quart parce qu'on a un DAF, mais il est à temps partagé.
D'accord,
parce
ouais.
que... Mais il fait partie de l'équipe quand même. Donc, on a doublé les effectifs. On a commencé à travailler sur des nouveaux produits. Et puis surtout, on a finalisé l'industrialisation de notre produit. Parce que tout ça, évidemment, en parallèle, on travaillait sur le produit. En parallèle, tu as le Covid qui a bouleversé tous les échanges industriels sur la planète,
oui.
Et qui a fait que nous mettre des bâtons dans les roues et qui nous a bien pourri la vie. Mais comme tout le monde, donc on peut pas se plaindre.
Ouais, et en même temps, est-ce que tu penses pas que le volume de votre succès, par exemple, sur le crowdfunding, vient aussi de réflexions qui sont dues à la situation Covid?
C'est possible. Ça a été un élément amplificateur. En tout cas, ça a peut-être permis à des gens d'avoir le déclic. En fait, des gens qui se posaient les questions, de se dire oui, c'est plus possible, quoi.
Ouais.
On peut pas être. Il y a un moment où il faut que ça change. Oui. Et donc nous, on dit bien que notre électroménager va durer longtemps. Et on dit aussi qu'on veut changer le monde en commençant par l'électroménager. Et on a trouvé sur le chemin d'autres gens qui se disent que aussi ils ont envie de mettre leur pierre à l'édifice,
ouais.
Et changer le monde. Donc oui, ça a été positif.
Ça t'a pas facilité la tâche quand même.
Au niveau industriel, franchement, on a tout eu. Je pense qu'on aura encore d'autres trucs, hein. mais des prix qui décuplent en 2 jours parce que finalement c'est comme ça et c'est pas autrement.
Ouais.
Des matières premières qui existent un jour et puis qui existent plus le lendemain parce que nous on était en grande pénurie. Des unités de production qui ferment parce que Covid et ça te met 30 jours dans la vue, sauf que quand t'as 30 jours et comme chaque chose se fait est dépendante de la précédente, et ben t'as perdu ton créneau,
oui.
Chez l'industriel qui devait usiner un certain nombre de pièces, ça te met 3 mois de retard. Enfin,
wow.
Voilà, mmh. On a un peu enchaîné, mais là on est bien. Là on est bien, on voit vraiment le bout du tunnel. On a commencé hier. Réellement, les premiers montages des arènes qui vont commencer à être livrés, qui vont pouvoir
donc,
commencer à être livrés
mai,
à partir de, voilà.
Début mai, ça
fin
commence
mai.
À monter pour
voilà,
livrer.
Début mai, on monte,
mai.
On va livrer en juin. Ouais, ouais, on va livrer à partir de juin.
Okay.
On va livrer à partir de juin et on est trop contents.
Mais je comprends.
Ça
veut dire aujourd'hui,
bon
je sais pas, sur votre site web, on peut aussi acheter en direct ou pas?
Ouais, exactement. On a continué à vendre depuis la fin de la campagne.
Ouais.
On a continué à vendre. On a aujourd'hui pas loin de 2000 jarennes qui sont vendues. Donc on a vendu quasiment autant.
C'est pas mal, hein.
Ouais. Non, mais c'est ça, sans qu'on fasse quoi que ce soit, parce que c'était pas le moment. Donc tu vois, on a construit notre communication sur les réseaux sociaux. On construit plus qu'agir, on construit, mais c'est vrai que on a des bons retours. ouais, on a des gens qui, que le projet motive.
Ah, il y a, tu l'as dit, vous avez travaillé aussi sur d'autres produits, mais si on s'arrête deux secondes sur la bouilloire, moi, il y a un truc qui, puis c'est mon côté geek certainement, c'est que votre bouilloire, elle est en open source.
Ouais.
C'est-à-dire
c'est
que
un choix.
Tous les plans sont disponibles, tout est disponible.
Ouais. Alors, l'open source, ben, ça fait partie de la logique de Kikit. Donc, c'est une logique communautaire et l'open source, donc c'est pas un produit high-tech, mais c'est un produit qu'on veut voir évoluer et qu'on veut faire vivre. Et on veut impliquer au maximum les utilisateurs dans la vie du produit. Donc, tout est en open source pour que les consommateurs puissent, réparer, le jour où ils en auront besoin, ils puissent réparer, ils ont tout pour réparer tout seul.
D'accord.
Mais aussi et surtout, pour ceux qui ont envie de faire évoluer le produit, ben, ils ont la possibilité de le faire dans le cadre de l'open source. Donc, le cadre de l'open source, c'est que ils ont la possibilité de le faire et ils ont le devoir de nous en informer et de partager avec nous ces améliorations. Et ces améliorations, quand elles seront développées, partagées avec nous, nous, on verra comment les industrialiser avec la personne qui les aura développées et on commercialisera. Et à ce moment-là, eh ben, la personne qui aura développé l'amélioration, eh ben, elle sera rémunérée sur la commercialisation. C'est vraiment impliqué au maximum. Donc, ça a cet avantage-là. C'est important. Ça, c'était vraiment, nous, c'était ça notre point de départ d'open source. Mais c'est aussi une autre façon de voir. C'est un autre monde qu'on construit.
Mmh.
Et se dire rester. Notre objectif, c'est pas de rester fermé sur nos innovations, mais c'est bien d'essayer de les rendre les plus ouvertes sur le monde possible pour faire avancer tout le monde.
Oui, et puis là où vous avez raison, c'est que en tout cas dans le cas de la bouilloire, c'est pas de la haute technologie, au contraire, vous êtes appuyé sur des technologies qui sont robustes, qui existent depuis un bon moment. Ce qui fait la force de la marque. Alors OK, honnêtement elle est belle, il y a un vrai design etc. OK, bon, ça c'est un point, mais ce qui fait la force justement, c'est la communauté, c'est le sens, l'engagement, les moyens de production, enfin la manière de produire qui donne un peu de profondeur à un produit qui finalement est quasiment un bien de consommation. Enfin, c'est un bien de consommation, mais tu vois ce que je veux dire. C'est
exactement.
Tu donnes du sens et de la profondeur à quelque chose, et c'est ça qui fait la valeur.
Exactement, et l'open source en fait partie, tout comme la manière dont on est produit, et tout comme le produit lui-même, parce que donc on va en parler de Majaren.
Mais oui, vas-y, fais-moi l'article.
ma bouilloire, c'est aussi cette même volonté, c'est-à-dire que donc le point de départ, c'est une bouilloire, elle fait chauffer de l'eau, mais la démarche, c'est de dire on va consommer moins mais mieux. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Un produit industrialisé a un impact négatif à trois moments de sa vie. Très fort au moment de l'industrialisation, parce que c'est de l'industrie, donc tu génères beaucoup d'impact négatif de CO2. Pendant son utilisation, un peu moins, et quand il devient un déchet.
Oui.
Trois étapes. Nous, sur ces trois étapes, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est dit, pour l'industrialisation, on va éco-concevoir, on va fabriquer en France, on va essayer d'être le plus local possible, on va chercher des technologies et des matériaux recyclables ou recyclés, on va privilégier l'inox, on va faire tous ces éléments pour limiter au maximum l'empreinte de notre bouilloire au moment de sa conception.
Ok.
Ensuite, sur l'utilisation. Donc, nos technologies, elles permettent d'être moins gourmande en termes de consommation d'énergie. Alors, moins gourmande parce
comment
que ça reste une
bouilloire. Comment t'as résolu ton problème de système de chauffage, là?
Alors, notre système de chauffe, c'est un système de chauffe, c'est un TFE, ça s'appelle. C'est un thick film element. C'est pas une résistance, c'est une sorte de résistance imprimée.
D'accord.
L'intérêt de ce système de chauffe, c'est il est hyper robuste. Il est utilisé dans l'aéronautique pour faire dégivrer les ailerettes des avions
pour
en vol.
Quelqu'un qui connaît rien, je trouve que tu dis, t'es vachement calé.
Mais je me suis un peu renseignée.
Ah, oui.
Donc, un système de chauffe bien bien robuste. Et l'intérêt aussi, c'est que contrairement à une résistance, donc si tu visualises une résistance, quand elle chauffe, ça chauffe tout autour de la résistance.
Mmh.
Alors que si t'as une résistance qui est imprimée sur l'ensemble de ta zone de chauffe, tout chauffe en même temps.
D'accord.
Donc ça, cumulé à une double paroi, ça fait qu'on est beaucoup plus économe en termes de consommation énergétique pendant le système de chauffe. Donc, ce que je disais, on essaye d'être économe sur la consommation. On veut pas que ça se transforme en déchet, mais notre produit, comme il est réparable à vie, va pas se transformer en déchet. Mais aussi, c'est important de se dire, on a toujours en tête consommer moins mais mieux, et donc se dire, ce produit industrialisé, on l'a acheté, il a coûté cher, entre guillemets, en termes de CO2 au moment de sa production. Donc, faisons en sorte de maximiser ses usages pour qu'il soit, un, vraiment utile, et deux, qu'il évite peut-être d'acheter d'autres produits industrialisés. Et donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait avec de l'eau qui chauffe? Avec de l'eau qui chauffe, bon, tu fais chauffer ton eau, tu fais infuser ton thé si tu as un accessoire. Tu peux aussi faire cuire des pâtes, du riz, des œufs. Tu peux faire avec de la vapeur, l'eau qui est transformée en vapeur, tu fais de la cuisson en vapeur.
Ça devient un cuiseur.
Eh ben ouais. Eh ben un peu, mais c'est surtout, ça devient un instrument du quotidien, parce qu'avec 5 accessoires, tout basique, on permet de faire tout ça. Pourquoi on peut le faire? Parce que tu vas me dire, mais j'ai pas trop envie de faire infuser mon thé dans le même récipient que celui dans lequel j'ai fait cuire mes pâtes. C'est pas faux. Mais là, je vais te dire, sauf que quand t'as une casserole, ta casserole, tu l'utilises pour plein d'usages différents. Qu'est-ce qui se passe entre chacun de tes usages? Tu peux la laver. Et ben, notre verseuse de jardin, elle passe au lave-vaisselle. Elle est entièrement lavable. Donc, elle permet une seule verseuse va permettre de faire tous ces éléments. Mais vraiment, avec cet objectif de dire un seul produit, plein d'usages, plein de raisons d'utiliser et moins de consommation.
C'est smart.
Ouais, c'est chouette.
Alors, ça, c'est pour la bouilloire. Il y a quand même un point qui est que tout ça, ça a un coût. Alors j'entends bien que le cycle de vie du produit étant beaucoup plus long, ben finalement on peut accepter de payer plus cher. Est-ce que toi t'as déjà eu des retours clients justement sur ce point du prix?
Bien sûr, évidemment. Alors, deux choses. Si tu regardes sur le marché juste des bouilloires classiques qui te permettent de régler la température, les bouilloires concurrentes, elles sont entre 200 et 300 euros.
Ah oui, quand même.
Ouais. Parce que t'as des bouilloires, les bouilloires classiques qui font tout en plastique, qui te font juste chauffer de l'eau, tu vas en avoir à 20 euros.
Oui, okay. C'est ça.
Mais on n'est pas du tout en termes, on n'est pas comparable
à ça. T'es pas sur le segment, hein. Ouais.
On n'est pas là-dessus. Et nous, on est dans cette gamme de prix qui est pas neutre, hein. Mais après on peut l'expliquer, mais on est dans une gamme de prix qui est audible pour le marché parce qu'elle existe déjà.
Ouais.
Si tu veux, juste tu regardes une bouilloire qui permet de régler sa température précisément et de régler ta durée de chauffe, elle est dans les mêmes gammes de prix.
D'accord.
Ensuite, nous, on est sur un autre positionnement. On est sur le positionnement de dire, ce produit, tu l'achètes une fois, tu ne le changeras plus. Donc, sur le long terme, la durée de vie des bouilloires, c'est 4 ans. Hein. Donc, en moyenne. Donc, une vie, t'achètes pas mal de bouilloires. Donc, sur le long terme, tu t'y retrouves. Et il y a aussi un engagement. Il y a aussi, on s'adresse pas à tous les consommateurs, on s'adresse à des consommateurs qui sont engagés. Et aujourd'hui, ces consommateurs engagés, ils représentent entre 20 et 30% de la population. Ouais, donc sur un marché de bouilloire, le marché des bouilloires, c'est 2 millions de bouilloires par an. Donc on est bien là.
D'accord.
Enfin, tu vois, on vise pas de prendre tout le marché d'un seul coup d'un seul.
C'est tout ce que je peux te souhaiter. Parce que derrière, il y a d'autres produits qui arrivent. Donc, tu l'as dit, en 2013, vous avez commencé par le lave-vaisselle. Donc, je suppose que... Lave-linge, pardon. Le lave-linge. Donc là, vous devez arriver... Enfin,
il est toujours dans nos cartons. Alors, il a pris du retard parce qu'on ne s'est pas occupé de lui pendant tout le temps où on s'est occupé de la jarrette. Mais il est toujours... on est vraiment toujours en phase de recherche et développement sur ce produit. Il est très probable qu'il soit doublé par un grille-pain qui sera lui aussi multifonction.
Cool.
D'accord. Qui a été demandé par les keepers, parce que les keepers, ils font ça aussi, ils nous disent ce qu'ils veulent.
Ouais.
Et le grille-pain, ça a été une grosse demande des keepers. Donc, comme c'est encore du petit électroménager, qu'on a pas mal défriché le terrain sur l'industrialisation grâce à la Jarenne, on pense que le, enfin, on est même sûr.
Vous avez gagné sur la courbe d'expérience, oui.
Exactement. Il va doubler le lavage. Alors, ils ont chacun leur petit nom. Donc, la bouilloire, elle s'appelle Jarenne. Le grille-pain, il s'appelle Tauben. Et le lave-linge, il s'appelle Fraval. Et tous nos produits auront des noms parce que, ben, ils ont vocation à rester longtemps, très, très longtemps.
Et vous les choisissez
dans les
comment,
foyers.
Les noms?
Ah, il faut que tu devines. En fait, moi, je m'appelle Karen et mon associé s'appelle Jacques. Ça, c'est facile.
Ouais, ok.
Voilà. Et tous les noms sont construits comme ça. Alors, on a des grandes familles. et puis, on a maintenant les collaborateurs qui nous disent, ah, moi, je veux le prochain nom. voilà. Et les keepers, évidemment, qui disent, moi aussi, si je donne l'idée, est-ce que je peux avoir le nom aussi? Donc, voilà. Okay. Ils auront tous un petit nom.
Donc, le grille-pain incessamment sous peu
dans un an. Incessamment sous peu, c'est dans un an. Ouais.
Ben ouais, je sais pas, enfin ça me semble pas déconnant. Le lave-linge, et vous vous arrêtez là ou vous continuez?
Non, une fois qu'on est parti, on est parti. Donc c'est vraiment on est une marque, ce qu'on veut c'est être la référence du durable et du réparable sur l'électroménager en général. Ouais. Donc on en a des tonnes des projets dans nos cartons. Il faut juste un petit peu de temps, un petit peu de sous, et puis on les aura.
Alors aujourd'hui c'est de la vente en ligne. Vous êtes allé toquer à la porte de la grande distrib ou de la distribution spécialisée, ou peut-être eux sont venus vers vous?
Ouais, alors c'est plutôt eux qui sont venus vers nous. On a des propositions, en tout cas on a des marques d'intérêt de la part de la grande distribution. On a aussi des marques d'intérêt. Il y a beaucoup d'acteurs. Donc t'as de la distribution traditionnelle, Fnac, Darty, Boulanger, que notre approche intéresse à deux niveaux. C'est-à-dire que ils ont des grands discours RSE, mais ils ont parfois du mal à trouver à vendre les produits qui sont en phase avec leur discours. Donc ça les intéresse. Ils font aussi, leur métier c'est aussi de faire du service après-vente, et notamment sur le petit électroménager, ils font du très mauvais service après-vente parce que ça consiste à jeter le produit et en donner un neuf, donc à avoir des produits réellement réparables, ça les intéresse aussi.
Ouais.
Donc il y a eux, il y a sur internet alors les grosses plateformes évidemment, il y a aussi un écosystème autour du Made in France qui se développe très très fort, mais là il va falloir un peu attendre qu'il se structure parce qu'il y a globalement une plateforme, une place de marché par jour autour du Made in France qui se développe, donc il va falloir voir. Il y a aussi des distributeurs individuels qui disent moi j'ai trop envie de vendre votre produit.
Ah, oui.
Donc on a beaucoup de sollicitations. Aujourd'hui nous on n'a pas pris de décision pour plusieurs raisons. D'abord donc il faut qu'on soit prêt, il faut aussi qu'on ait les volumes et les stocks pour pouvoir répondre à ce type de d'acteurs. Il faut aussi qu'on s'accorde en termes de marge, parce que tout ce que j'ai dit tout à l'heure, évidemment, ça a aussi un impact sur le coût du revient des produits. Mmh. Et en termes de marge, on est très, 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 très loin des marges qui sont faites par des produits industrialisés par des acteurs qui existent depuis 100 ans, optimisé leur chaîne au maximum, qui sont fabriqués à l'autre bout du monde avec des produits qui sont avec des matériaux qui sont pas les nôtres. Donc nous on a une vraie problématique de marge si on veut au niveau de la distribution. Donc mais ça se discute, et ça se discute plutôt bien. Mais c'est juste que nous, il faut qu'on fasse nos choix. Il faut pas qu'on se trompe. Il faut pas qu'on perde notre âme. Mmh. Parce que on veut aussi vraiment pouvoir maîtriser le prix. C'est important. On sera pas une marque qui fera des promos ou qui fera des soldes. Parce que on sera une marque qui propose un prix juste et responsable. Mmh. Un prix qui permet de payer les fournisseurs, de payer correctement tous les gens qui travaillent pour la structure, et puis de réinvestir dans la structure, mais l'objectif, enfin, moi je veux pas du tout, mon objectif c'est pas de devenir milliardaire, je suis bien, ça va, donc c'est pas le but quoi, et donc tout ça, ça a un impact aussi en termes de marge, de redistribution de la marge. Donc on a plein, le sujet de la distribution est vraiment sur la table, et puis il y a aussi l'investissement des keepers. On veut voir comment on peut les impliquer, et puis voilà, il y a plein, il y a c'est le prochain sujet, okay. La distribution.
Je trouve ça, alors, un, passionnant, et parce que, mais je savais que j'étais avec une bonne cliente avec toi. Tu racontes bien l'histoire, d'une part. Je pense que l'histoire, elle est hyper belle. Elle est bien réfléchie et, alors, je disais dans l'air du temps, mais on n'est plus à ça. Non, c'est-à-dire que exactement. Là, c'est bon, faut arrêter les conneries. Donc, oui. Je pense que c'est une approche saine d'un business. Et puis en plus de ça, on voit que on est tous un peu comme ça. On cherche justement des solutions parce que on n'arrête pas de nous bassiner avec le réchauffement climatique et comme on est coupable et comme on n'est pas bien, etc., etc. Mais s'il n'y a pas d'alternative, s'il n'y a pas de solution, mea culpa, mais qu'est-ce qu'on fait? Et là. C'est une petite échelle entre guillemets, excuse-moi, mais voilà, c'est un pas de plus dans la bonne direction. En plus, dans une logique entrepreneur, socialement responsable. Enfin voilà, tu coches toutes les cases quoi. Hein, là.
C'est un chouette projet.
Mais ouais, je pense que alors. Du souvenir que j'avais de toi, j'avais le souvenir de quelqu'un de souriant. Et là, ça s'entend que tu le vis pleinement, mais tu le vis avec bonheur.
Ah, c'est clair. Je suis hyper fière, hyper contente. J'adore. C'est bien, on agit, quoi.
Donc. Voilà, pour tous ceux qui veulent se faire chauffer de l'eau, mais surtout suivre ton aventure, il y a Keep It, alors c'est KIPPIT.fr, KIPPIT.fr pour être clair. Si on veut te joindre, Karen, s'il y a des investisseurs, des quoi que ce soit qui veulent te joindre, le plus simple, c'est quoi comme média?
LinkedIn.
OK.
Ouais.
C'est d'ailleurs là-dessus,
qu'on
s'est reconnecté.
Oui.
Et d'ailleurs, petit message, s'il y a Emery Jacquia qui écoute, donc le PDG de la CAMIF, il y a un truc à faire, je pense, avec Karen, parce que vous êtes bien alignés tous les deux. Emery Jacquia, c'est l'épisode, je sais plus combien, 20, 22, je sais plus de la colle. Mais voilà, on arrive au bout, Karen. Les 7 dernières questions qui sont le rituel obligé. Pour tous mes invités, dis-moi, quel est ton mot préféré?
Alors, avec tout ce que j'ai dit tout à l'heure, je pourrais dire chance, mais je ne vais pas dire ça, je vais dire agir. Ouais. Agir, pour moi, ça donne de l'énergie, ça rend optimiste et c'est ce que je suis.
Ouais. Ben oui, on sent l'énergie, on sent le moteur qui tourne. Le mot que tu détestes?
Alors, je n'ai pas vraiment de mot détesté. Mais je rentre très régulièrement je suis un peu agacée, je rentre en guerre sur les mots à la mode et ou les tics de langage. Ouais. Et en ce moment, mon combat du moment, ça en fout tout le monde, mais je t'assure que ça fonctionne. C'est je mène un combat anti du coup.
Ah, on est pareil.
Insupportable. C'est devenu tellement présent que parfois il y a des gens que j'arrive pas à écouter parce que je joue au bingo des du coup et je fais des cases et donc il y a une grosse lutte anti du coup dans ma famille, dans mes équipes, donc
oui, et puis c'est pas générationnel, hein, c'est très très répandu partout.
Ah, mais c'est pas générationnel du tout et c'est insupportable. Donc voilà, c'est pas un mot détesté, mais c'est plus
j'abonde à ton combat. On peut monter une asso si tu veux. Le son ou le bruit que tu aimes?
Oh, j'aime le bruit de la mer. J'aime le bruit de l'océan.
Mais puis t'en es pas loin.
Ouais, on va pas tout près non plus, mais.
Quand même. le son ou le bruit que tu détestes?
Le bruit des motos. Je déteste ça.
Ah,
les trucs qui font du bruit pour faire du bruit, pour juste. Ah, je déteste.
C'est amusant. Ouais. L'épisode juste avant toi, c'est Pierre-Alain Lévesque, qui est un spécialiste des low tech, et il a répondu exactement la même chose. Les motos qui passent dans la rue en pétaradant, tu vois.
Ah, c'est terrible ça. Ah, c'est marrant.
Ok. Ton juron, gros mot ou blasphème favori?
Je crois que j'en ai pas.
Ah.
Non, mais vraiment. Je crois pas que j'en ai. Je suis pas très.
Tu l'as dit deux fois pendant le podcast. T'as dit, ah, ça coûte une blinde. C'est pas.
Ah, peut-être.
C'est une expression ouais, plutôt.
Une expression plutôt. Mais je suis pas très jurée. Ouais, non.
Non.
Non. Ouais,
t'es sage, c'est bien. la citation que tu aurais aimé prononcer.
Alors là, j'ai réfléchi un peu.
Ouais.
C'est une phrase de Camus qui dit et qui va bien avec ce que je suis. C'est il dit il vient toujours un temps où il faut choisir entre la contemplation et l'action. Ça s'appelle devenir un homme, une femme.
Là, il faut après du Camus, il faut laisser un petit moment.
Ouais.
Ok, jolie. Je la connaissais pas celle-là. Si Dieu existe, qu'aimerais-tu après ta mort l'entendre te dire?
Alors, s'il existe. Peut-être me dire que il lui semble que j'ai pas trop perdu mon temps sur Terre et qu'il pourrait peut-être m'y renvoyer.
C'est parti pour un deuxième tour.
Voilà.
Ok, ça c'est noté. C'est noté. Le cas échéant, je passerai le message. Karen, encore un grand merci de tout ça. On peut souhaiter la plus longue vie possible à Keep It, puisque c'est l'enjeu finalement. Hein.
Eh ben oui.
C'est l'éternité. C'est voilà, avec Keep It, vous avez un petit goût d'éternité. C'est nul comme marketing, mais c'est pas grave. Je vais te laisser. Pour le coup, le slogan du oh là là, vous allez en profiter longtemps. J'ai adoré. En plus, sur la typo, etc. Enfin voilà, c'était vraiment marquant. Un grand merci donc de ce temps, de cet échange. Belle aventure, longue vie à cette aventure. Et puis, on se revoit quand tu lances le lave-linge alors.
Avec plaisir.
Allez.
J'aurai encore plein de trucs à raconter.
J'en doute pas un seul instant. Merci beaucoup, Karen. Bye bye.
Avec plaisir.
Bravo, vous avez tenu jusque-là. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez le partager avec tous vos amis. Point important, abonnez-vous à La Colle sur votre plateforme de podcast préférée pour obtenir dès leur sortie les nouveaux épisodes. Mais aussi et surtout, laissez-moi un commentaire pour me dire ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu, les trucs à améliorer et, je l'espère, vos encouragements. On se retrouve très vite pour un prochain épisode de La Colle.